Les Colibris d'Alès présentent le chant des colibris.
En la forêt des colibris, il y avait un grand incendie, du feu, des flammes, du vent, des cris. Tous les amis des colibris regardaient le feu sans rien dire, n'avaient qu'une idée, s'enfuir. Il restait juste un colibri, jetant des gouttes sur l'incendie. Nous sommes tous des graines de colibri. Dans ma tête il y a du cœur, dans mon cœur il y a l'envie de quoi faire un monde meilleur, de quoi faire un paradis.
Le chant des colibris, une émission de Céline Elodie, enregistrée en public au Jeudi des Colibris à Alès. Bienvenue dans cette dernière de l'année des Jeudis des Colibris et dans cette émission, du coup, pour les auditeurs et auditrices du chant des colibris. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'imaginaire, parce que l'imaginaire, c'est du sérieux. Eh ben ouais, c'est pas des trucs seulement pour les enfants, figurez-vous. Et on va découvrir à quel point c'est du sérieux, l'imaginaire. Il a mauvaise presse, cet imaginaire. On nous a dit, mais non, c'est des bêtises, c'est dans ton imaginaire. Ah bon, c'est dans mon imaginaire, alors c'est des bêtises. Ok, il y a beaucoup de choses à déconstruire de ce point de vue-là. Et c'est pour cela que j'ai invité Virginie Boissière, qui est sophrologue et praticienne, formatrice aussi, en rêve-lumière. C'est un outil qu'elle a inventé. Elle était avant formée au rêve d'éveil et elle a créé le rêve-lumière. Bonjour Virginie.
Bonjour.
Merci d'être là. Et puis de l'autre côté, j'ai avec moi Jean-Guillaume Bélier, qui est psychopraticien et formateur en écologie intérieure. Salut Jean-Guillaume.
Bonjour.
Alors, l'imaginaire, en fait, faut peut-être comprendre déjà que tout ce qui existe dans notre monde a d'abord été pensé, a d'abord été imaginé avant d'exister et avant de prendre forme dans la matière. Notre imaginaire, c'est donc notre laboratoire, c'est notre atelier d'artiste. C'est là où nous concevons nos œuvres et où nous rêvons notre vie avant de la vivre. C'est pas que des mots, c'est joli comme ça, mais c'est pas que des mots et on va voir à quel point. Jean-Guillaume, j'aimerais bien que tu nous parles de la loi de la création de réalité ou la loi d'attraction. Que sais-tu à ce sujet ?
La loi d'attraction ou la création de réalité, est-ce que vous en avez entendu parler ? Je me tourne quand même vers vous pour voir un peu... Voilà. Non ? Il y en a qui ne connaissent pas du tout ? Voilà, ok. L'idée de création de réalité, c'est que nous sommes en réalité dans une sorte de grand film géant dans lequel, auquel on participe et que nous créons tous ensemble, nous co-créons les situations qu'on vit. Alors c'est une révolution de la pensée parce que ça nous rend responsables de tout ce qui se passe et c'est cette idée-là qui a été transmise dans les années 70 aux États-Unis en parlant de création de réalité. Et quand j'accompagne les personnes, je les invite à devenir responsables de ce qui se passe en elles pour que justement elles puissent prendre conscience qu'il y a des parties d'elles qui créent à tout moment. Mais c'est assez complexe à percevoir, surtout si on est branché que sur son cerveau rationnel, parce qu'il faut en faire l'expérience. Voilà, donc c'est une idée vraiment intéressante. Donc on crée notre réalité et une des dénominations, on parle de loi d'attraction. Voilà, et c'est quelque chose qui est arrivé il y a une trentaine d'années. Moi, j'ai découvert
alors,
ça.
Alors, quand tu dis ouais. C'est arrivé comment ?
Voilà, c'est arrivé il y a dans les années 70, en particulier aux États-Unis, où il y avait des... ça va vous paraître peut-être complètement ésotérique et stupéfiant, mais il y avait des écrivains qui écrivaient en étant guidés par des entités, des êtres de lumière. Enfin, vous pouvez les appeler comme vous voulez, des extraterrestres.
C'est ce qu'on appelle des channels ou des canals, des écritures en canalisation en français, ou en anglais, channel, channeling.
Voilà, et c'est exactement ça. Et ces personnes nous donnaient la responsabilité de ce qu'on vivait en nous disant, vous êtes responsable de ce que vous vivez sur Terre, c'est vous qui créez votre environnement, votre vie, à partir de vos pensées, à partir de vos états émotionnels, à partir de votre vibration intérieure. Et moi, je me rappelle avoir lu ça il y a une vingtaine d'années, et j'étais transporté. Je sentais que ça changeait mon état vibratoire parce que je sentais que ça me disait quelque chose de juste. C'était plus une divinité qui allait décider pour moi, mais je reprenais ma responsabilité. Mais en même temps, j'étais un peu dépité parce que j'avais pas l'impression de créer vraiment ce que j'avais envie. Et peut-être que je l'aborderai après, c'est les limites de la création de réalité qui étaient présentées à cette époque-là par une version très matérialiste.
On va l'aborder après. D'abord, j'aimerais entendre toi, ta vision sur cette création de réalité, Virginie. Toi, tu l'appelles non pas la loi d'attraction, mais la loi de résonance.
Ouais, résonance vibratoire. C'est-à-dire que d'une certaine façon, tout est à la fois énergie et matière. Je crois qu'aujourd'hui, la physique quantique l'a bien montré depuis des dizaines d'années. Et tout ce qu'on vibre se manifeste dans notre quotidien, en fait, dans notre réalité. Et ce qu'on vibre, c'est à la fois nos croyances conscientes, inconscientes. C'est tout cet imaginaire qui est mis au service de ce qui est présent en nous en termes de mémoire, mémoire familiale, mais aussi aspiration, intention et rêve.
Toi, justement, c'est via le rêve que tu es entré en lien avec cette loi de création, cette loi de création de réalité.
Oui, tout à fait. Alors moi, je suis rentrée en lien avec le rêve assez jeune, puisque j'ai une mère qui a fait une dépression et qui a fait une psychanalyse et qui a énormément travaillé à partir de ses rêves. Et du coup, je suis rentrée assez jeune dans le langage intuitif des rêves, condensé, le langage poétique, le langage global, où une part de nous parle, mais d'une façon différente que le langage logique.
J'aime bien t'entendre parler de poésie parce que c'est vrai que autant dans notre imaginaire que dans notre inconscient, ce langage effectivement est très poétique. Il parle sous forme de symboles,
de symboles,
de façon
d'images.
Énergétique parfois.
Oui, puis les informations peuvent être déplacées ou aménagées dans une autre structure que la structure logique. Et c'est la moitié de nous. Pour moi, c'est le langage de l'âme.
Quand tu dis c'est la moitié de nous, de façon plus justement rationnelle, pour essayer de l'appréhender, on avait fait une conférence hier où on a parlé du cerveau droit et du cerveau gauche. Et comment tu peux faire le lien avec ça alors?
Alors justement, le cerveau droit, c'est le cerveau poétique, le cerveau inspiré.
Celui qui a la conscience du tout.
Oui, exactement.
Qui peut appréhender une globalité très complexe.
Et qui peut être en lien avec l'inconnu, avec le nouveau.
Et avec ce qui nous dépasse, avec la transcendance.
Exactement.
Pourquoi il est
avec
connecté
la transcendance.
Avec l'âme.
D'accord. Et le cerveau gauche va être celui qui est rationnel, qui structure, qui range dans des cases et qui
le
est très important.
Le cerveau logique.
Voilà, exactement. Et le travail que moi j'opère avec le rêve, c'est vraiment un travail de connexion des deux cerveaux. Mais on va utiliser vraiment la primeur du cerveau droit, dans le sens où c'est lui qui va recevoir l'information que notre inconscient ou notre âme souhaite nous transmettre et qui va la livrer au cerveau gauche, qui lui va la rapprocher de la matière, rapprocher ces informations de la matière.
Donc on voit bien que les premiers qui ont découvert ça, c'était avec la psychanalyse, effectivement, puisque le langage de l'inconscient parle de cette façon poétique et assez artistique, assez inspirée. Et ensuite, ça va être le travail du cerveau gauche, du psychanalyste, qui va aller décrypter, analyser, traduire, quelque part,
interpréter.
Tout ce langage-là du cerveau droit. Alors, toi, justement, en tant que psychopraticien, Jean-Guillaume, tu travailles aussi beaucoup avec justement ces deux cerveaux. Ça devient un outil de guérison quand on arrive à réunir, aussi bien pour le praticien que pour la personne qui fait son travail de guérison, à réunir ces deux façons d'appréhender la vie, d'appréhender le monde.
Oui, alors je pense qu'il faut peut-être rappeler qu'on est dans une société qui a surdéveloppé le cerveau gauche, le cerveau logique. Le cerveau gauche est surdéveloppé par les études, par la façon dont on s'occupe des enfants. Et du coup, on a un peu justement hémiplégique du cerveau droit. Alors ça procède de différentes possibilités. Comment retrouver l'accès justement à l'imaginaire? Et tu nous parleras peut-être de comment tu fais, parce que c'est intéressant. Il y a plein de voies différentes pour se rebrancher sur cette partie-là ou réharmoniser nos deux parties.
Et dans l'écologie intérieure, alors comment on fait?
Alors justement, une des fonctions, c'est de se rebrancher sur sa guidance intérieure, d'accepter d'avoir des parties de nous intuitives, et c'est la fonction d'être réceptacle de quelque chose qui nous dépasse, d'accepter d'avoir des informations qui ne viennent pas de manière justement logique, qui nous amènent à faire des choses étranges ou qui nous invitent à voir le monde d'une autre manière. Souvent, le manque de connexion vient de croyances, de blocages, d'interdits à l'utiliser. Donc, une des premières étapes que moi j'ai, c'est de permettre aux personnes de réparer les peurs, enfin de dépasser, de guérir des peurs, si vous voulez, pour pouvoir faire ce pour quoi on est fait. C'est-à-dire que c'est naturel de l'utiliser, sauf qu'il y a, il y a souvent des limitations. Alors, je pense à des personnes qui, par exemple, quand je leur propose de se brancher sur leur guide intérieur, qui est une forme, une façon de se brancher sur sa guidance, sur sa sagesse, elles ne peuvent pas parce qu'il y a un interdit. Ça ne se fait pas, je n'ai pas accès, je ne sais pas faire. Ce que les artistes, souvent, savent très bien faire, ils savent se laisser inspirer. Les enfants savent le faire avant qu'on les conditionne à plus le faire. Mais souvent, ils le font, c'est naturel. Et donc, simplement en guérissant de la blessure ou des blessures qui ont empêché le processus, en quelques instants, on se rebranche sur cette connexion-là, puisque c'est automatique. C'est comme... parler, quoi. Enfin,
il s'agit donc simplement de lever des voiles qui auraient été donc posés sur une nature qui est fondamentalement équilibrée, justement, entre cette raison et cette intuition.
Oui, c'est exactement ça. Oui. Mm-hmm.
Donc guérir les blocages qui ont été mis par l'école, par les parents, par tout ça.
C'est en prendre conscience. Hein, quand on parle de guérison, c'est prendre conscience, constater qu'il y a un blocage en soi. Et plutôt qu'être dans le déni qu'il y a un blocage et dans son ressenti qui est coincé, c'est aller voir, explorer, comprendre pourquoi on est bloqué. Et à partir du moment où on commence à comprendre qu'il y a un blocage, on peut le laisser exister. Alors là, peut-être qu'il faudrait que je parle de transformation des émotions.
Voilà, donc en écologie intérieure, après, on pratique la guérison via l'alchimie émotionnelle. Mais ça, c'est un autre sujet parce que là, ça nous emmènerait un peu plus loin. Et puis, il y a une autre émission que vous pourrez trouver sur mon site internet sur le sujet. C'est sur au service du vivant.info et c'est pratiquer l'écologie intérieure d'abord. J'aimerais qu'on revienne sur trois notions afin de les éclaircir. La notion d'inconscient, la notion de conscient et la notion de supraconscient. Notre psychisme est donc composé de ces trois strates. La principale, celle avec laquelle on fonctionne la plupart du temps, c'est donc le conscient. On a parlé de l'inconscient, celui qui se révèle donc à travers parfois les rêves. Jean-Guillaume, toi aussi, tu es un fervent défenseur de l'inconscient, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont tendance à, comment dire...
Dans les formes de thérapie actuelles, justement parce que la psychanalyse avait des défauts méthodologiques qui ont été dénoncés par exemple par Alice Miller, on a décidé qu'il n'y avait pas d'inconscient, donc on est passé sur des thérapies comportementales qui sont certes intéressantes, mais qui ne permettent pas forcément d'aller pour certaines personnes revisiter les zones traumatiques. Je vous renvoie vraiment aux recherches d'Alice Miller qui est très claire là-dessus.
Ce qui est important surtout, c'est de voir que l'inconscient existe.
Oui, c'est-à-dire qu'on est en permanence agi par des processus inconscients et l'objectif c'est de devenir plus en plus conscient qu'on est agi par ces processus-là, qui sont parfois des vieilles mémoires intergénérationnelles, voire on pourrait même imaginer de vie passée. Enfin, bref, ce sont des mémoires qui s'activent et qui nous agissent à l'insu de nous-mêmes, sinon ça ne serait pas inconscient. Et c'est en les détectant, en les ressentant, en les laissant se transformer dans l'être qu'on s'en défait. Mais dans un premier temps, il faut accepter qu'on en a, quoi. Sinon, voilà. On est condamné à répéter sans fin le passé, enfin notre histoire, quoi.
Alors, une fois qu'on a acté qu'effectivement, elles sont là, ces mémoires inconscientes, ces mémoires dont nous n'avons pas conscience, mais qui nous agissent malgré nous, la deuxième étape est de comprendre qu'elles agissent également sur notre création de réalité. On peut peut-être revenir sur la loi de résonance.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que je pense que de toute façon, vous en faites tous et on en fait tous l'expérience. C'est parfois de se retrouver dans des situations dans nos vies qui se répètent alors que ce n'est pas ce qu'on a envie de vivre. Concrètement, consciemment, on aimerait vivre autre chose et pourtant on se retrouve dans des situations répétitives et douloureuses. Donc là, à cet endroit-là, moi je trouve que là, il y a vraiment une clé dans cette loi de résonance vibratoire, c'est que finalement, notre réalité nous montre aussi la teneur de notre inconscient. Ces situations répétitives dans nos vies et compliquées, qu'on voudrait simplifier, mais qui se répètent malgré nous, elles nous montrent aussi ce qui se trouve dans notre inconscient comme mémoire. Donc finalement, pour moi, ce sont vraiment des cadeaux, des façons de pouvoir se rencontrer soi-même à travers notre réalité.
Pour expliciter, c'est-à-dire que ce que l'on crée à l'extérieur dans notre vie, parce qu'il va falloir comprendre cela aussi, c'est que nous sommes créateurs de toutes les circonstances de notre vie, on y arrive, attention, tranquillement, toutes les circonstances de notre vie donc, qui apparaissent autour de nous ne sont que le reflet de la vibration interne, que l'on en soit conscient ou pas, c'est-à-dire que c'est le reflet de tout ce que l'on a à l'intérieur, de nos parts conscientes, mais également de nos parts inconscientes, donc de nos traumatismes, de nos peurs, de nos rancœurs, de nos colères, de nos etc, etc, etc.
Des terres à même l'écume des vagues et des larmes du soleil. Des terres fracturés comme des dalles, échelonnés sur le dos d'une allée sinueuse de serpents de mer. Et ça rampe dans un sillon de rire ou de rage blanche, on ne sait. Au ras des flots de colère, frappés l'air chaud d'un grand coup de rein de baleine en sursaut, et d'un beau cri d'éclair. Foudroyer l'hélico qui ronronne et frombit comme une mouche à merde sur le nez levé des crapauds, ou comme un noir démon, poux, espion, satellite sur la tête patiente de ces nègres débloqués de leurs rêves. Larguer l'île dans la dérive bourlinguée des affres et borborygme d'une angoisse oppressive. Arrêtez, arrêtez pile le volcan pour l'accoucher d'un enfant de feu. Non, avorté. Après, enfin, la fin des fins. Le vent à respirer largement, en enjambant le cyclone coursier de la débâcle sauvage. Je tiens sa crinière.
C'était Arthur H. déclamant un poème de Georges Desportes, tiré de l'album « Or noir ». Une illustration poétique de nos paysages inconscients et de nos mondes intérieurs teintés d'ombres et de lumières, et qui sont à l'origine de nos créations de réalité. D'où l'importance de comprendre et de guérir nos psychismes de leurs souffrances, afin de pouvoir co-créer une réalité désirable et un monde harmonieux. On en parle avec Virginie Boissière, créatrice du Rêve Lumière, et Jean-Guillaume Bellier, formateur en écologie intérieure.
C'est un peu une révolution de l'esprit d'imaginer que ce que nous créons émane de nous. C'est pas un concept facile puisqu'on a tendance à se défausser sur des dieux ou un dieu ou sur le hasard, alors que ce qui émane de notre être participe à la création. Alors il est difficile d'admettre que quand on perd un enfant on l'a créé, c'est très difficile. Et si vous rencontrez quelqu'un qui a perdu un enfant ou qui vient de vivre une personne qui vient de vivre un drame, s'il vous plaît prenez-la dans les bras avant de lui dire qu'elle est responsable ou créatrice de son malheur, parce que je l'ai entendu. Donc quelqu'un qui vit un drame, on l'accueille d'abord dans sa douleur, ensuite si elle a envie on pourra réfléchir aux causes profondes qui font qu'elle vit ça, mais c'est un deuxième temps. Et du coup, on peut commencer à aller chercher des causes profondes dans notre inconscient et voir si c'est des raisons, justement, de répétition de schéma de souffrance, ou si ça vient d'un autre niveau qui est là pour nous faire faire une expérience terrestre particulière. Hein, c'est ce qu'on pourrait, en écologie intérieure, on appelle ça le supraconscient. On pourrait parler d'âme, de la partie de nous la plus éveillée, qui ne vise pas à nous faire souffrir sur Terre, mais à nous faire prendre conscience de quelque chose pour qu'on s'éveille. Donc c'est comme si elle nous disait, bon voilà, tu vas sur Terre, tu vas vivre une expérience, et tu vas vivre telle ou telle aventure. Bon, ça sera un peu délicat, mais tu vas apprendre des choses extraordinaires. Et la partie consciente de nous aurait plutôt tendance à vouloir vivre repliée sur elle-même. Je prends souvent l'image du Hobbit, parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup animé, les jeux de rôle et les choses comme ça, justement. J'ai beaucoup appris avec ça quand j'étais adolescent. Mais le Hobbit, il a envie de rester chez lui, dans son trou. Et puis, l'aventure vient frapper à sa porte. Et là, il ne peut pas s'empêcher, il va prendre l'aventure. Et bien, on est un peu comme ça. On a une partie de nous consciente qui est un peu la trouille, voire parfois beaucoup, beaucoup la trouille, et qui va créer des conditions pour vivre une aventure terrestre. Une sorte de grand jeu, absolument passionnant, même s'il y a des moments, c'est des drames, c'est des grandes souffrances. Mais la finalité, quelle est-elle ? De nous faire grandir, nous faire évoluer, nous permettre de nous éveiller à des niveaux de conscience de plus en plus élevés. Et l'espèce humaine, pour moi, elle est en pleine mutation, et puis elle est loin d'être complètement éveillée. Et donc, cette expérience individuelle d'éveil à chaque fois qu'on vit des expériences douloureuses nous permet de nous réorganiser collectivement et de sortir des vieilles matrices, des vieilles habitudes, des vieux programmes automatiques, des vieux fonctionnements grégaires pour créer autre chose.
Alors, toutes ces compréhensions nous amènent vraiment à prendre conscience que l'aspect dramatique, si l'on veut, de la vie sur Terre vient bien de la façon, finalement, dont on va vivre les différentes expériences qui vont nous être données à vivre. Et c'est bien souvent l'intensité émotionnelle qui va être présente, qui va rendre la chose dramatique, surtout si on est identifié à ce corps physique uniquement et que l'on pense n'être que cela. Et du coup, ça va vraiment nous inviter à aller découvrir mais qui sommes-nous au-delà de cela et aller voir voilà, cette fameuse grande question, connais-toi toi-même et va à la rencontre de qui tu es vraiment. Et alors, une fois qu'on est sur ce chemin, d'un coup, ça devient beaucoup plus savoureux même de vivre des expériences intenses émotionnellement, pour peu qu'on sache comment alchimiser ses émotions. Ça, c'est ce que vous pourrez découvrir avec l'écologie intérieure notamment, et avec aussi le rêve-lumière et avec d'autres approches. Mais à partir du moment où effectivement on a compris cela, que les émotions, juste, elles s'alchimisent, elles se transmutent, elles se traversent, eh bien tout devient très savoureux et on retrouve le plaisir du jeu. Quand vous voyez les enfants, ils sont nos maîtres, c'est-à-dire qu'on retrouve ce plaisir d'être en vie qui est juste spontané, évident, naturel et instinctif.
Le jeu J-E-U et le jeu J-E, c'est-à-dire comment est-ce que je me rencontre dans le jeu J-E-U. Et si on regarde les enfants qui jouent, qui imaginent, qui intègrent toutes leurs difficultés dans leur jeu, qui les transforment, qui intègrent le monde et les choses complexes du monde à travers leur jeu, et qu'on voit à quel point ils apprennent une quantité de choses incroyables dont on dit que l'adulte n'en est plus capable. Eh bien, en fait, c'est faux. Je pense que c'est juste que l'adulte s'est séparé de ses outils d'origine, qui sont le jeu, le rêve et l'imagination. Et avec ces outils-là, on peut fonctionner, j'ai envie de dire, de manière multidimensionnelle, c'est-à-dire à différents endroits de nous-mêmes, on peut apprendre plein de choses comme les enfants savent le faire.
J'aime beaucoup aussi l'idée que l'imaginaire est un puissant outil de guérison. Tu viens de le dire, les enfants sont capables de, comment tu le dirais, de réorganiser des choses, de guérir des choses. Il y a un mot, je crois, mais il ne m'apparaît pas.
De grandir, d'évoluer, d'intégrer.
Et parfois de résoudre des problématiques de leur vie, c'est-à-dire que face, par exemple, à une...
transcender.
De les transcender, merci, c'était ça que je cherchais. Face à une autorité abusive, par exemple, vous allez voir des petits garçons jouer au chevalier qui va terrasser le dragon, etc. Et quelque part, là, il se réhabilite lui-même dans sa propre puissance et dans sa propre capacité à lui aussi à asseoir son propre pouvoir. Donc on voit bien la puissance de l'imaginaire là, qui sert vraiment de résilience et de guérison. J'aimerais bien, Jean-Guillaume, que tu nous parle justement de cet outil, de cette pratique basée sur le scénario de guérison en écologie intérieure et qui permet de guérir des traumatismes, qui permet d'alchimiser justement nos émotions.
Oui, alors effectivement, l'écologie intérieure est un ensemble de connaissances. Le nom a été donné par Yann Thibault et il a récupéré des outils, certains outils. L'alchimie est un processus naturel. Hein. On laisse faire en fait quelque chose, c'est pas un acte volontaire. On décide de laisser du temps à son corps pour se laisser se guérir, se laisser trembler, bouger, etc., respirer. On laisse faire. Hein. C'est pas un outil, c'est un processus que tu observes aussi dans ton accompagnement. Voilà.
Ce processus, c'est le fait simplement de vivre des émotions, nous secoue. On le dit d'ailleurs, je me sens secoué. Ben laissons notre corps se secouer. À des moments, il se secoue tout seul tellement il est secoué. Ben laissons-le se secouer.
C'est ce que font très bien les animaux. Après avoir vécu une situation de danger...
Ouais, voilà.
Voilà. Mm-hmm. Ils peuvent aller dans un coin et trembler jusqu'à éliminer toutes les toxines dues à l'adrénaline. Donc c'est très intéressant de voir qu'on est aussi cette part animale.
Tout à fait.
Ouais, c'est pour ça que quand on parle d'alchimiser, en réalité, on devrait dire on laisse faire un processus naturel de transformation, de métabolisme, d'une émotion qui nous a traversé et que culturellement on a plutôt tendance à bloquer. Donc voilà, ça c'est le processus que moi je cherche à repérer quand j'accompagne les personnes. Et j'ai observé que dans plein de méthodes et plein d'outils thérapeutiques, quand ce processus s'active, ça guérit, la personne se transforme. Il y a une réelle transformation intérieure. Donc une des façons de faire, c'est par exemple d'imaginer, quand on a vécu des manques affectifs, et bien d'imaginer un film intérieur qui va répondre au manque qu'on a eu. Par exemple, mon père ou ma mère ne m'a pas assez aimé, j'imagine que j'ai une mère qui est guérie, elle est merveilleuse, elle s'occupe de moi. Et on peut faire comme ça tout un scénario imaginaire auquel on croit. C'est exactement ce qu'on fait quand on va voir un film. Quand on voit un film, on sait que c'est faux, c'est des acteurs qui jouent, on sait qu'il y a des caméras derrière, des projecteurs, etc. Tout est faux. Et pourtant, on y croit et on en arrive même à pleurer. enfin la plupart des gens pleurent dans les films quand ils sont touchés. Et bien là, on se fait le scénario idéal dont on aurait rêvé. Non pas pour remplacer le passé, parce qu'on sait qu'il a eu lieu, mais parce que ce qu'on se donne à imaginer pour l'inconscient, pour une partie de notre être, c'est réel, il y croit. Et tac, l'émotion arrive et elle se transforme. Voilà, l'imaginaire a une puissance qu'on ne soupçonne pas. Si on s'intéresse à la parapsychologie, par exemple, on observe qu'il y a des phénomènes parapsychologiques qui défient les lois matérielles actuelles. Quand on voit qu'il y a des êtres qui lévitent, ça vous paraît peut-être surprenant, mais quand j'ai étudié le sujet, il a été étudié par d'autres scientifiques, donc je me base sur leurs recherches. Quand on voit les torsions de matériaux, ça c'est les phénomènes PSI les plus impressionnants. Psy, c'est la lettre grecque. Eh bien, les gens l'ont imaginé et ça se transforme dans la réalité. Donc, on peut concevoir la puissance de notre imaginaire. En tant qu'être humain, on a une puissance de création absolument considérable. Sauf qu'on peut faire des choses comme tordre des barres de fer ou faire des choses sympathiques, guérir des gens en modifiant des choses, mais on peut aussi s'en servir sous une forme de magie noire. Et tout à l'heure, tu parlais de magie et je trouvais que c'était intéressant ce que tu disais.
De magie, tout à fait, mais le jeu, c'est magique. Par exemple, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai que par exemple l'enfant dans le jeu qui fait sa cabane au milieu du salon, qui prend deux chaises, un drap et des coussins et qui met tout un tas de personnages dedans, ben, réellement pour mon cerveau gauche la cabane elle n'existe pas, mais pour le cerveau droit elle existe, en fait dans le jeu la cabane elle est réelle. Et c'est ça qui est intéressant, c'est comment est-ce que nous, adultes, on peut retrouver ce réel tout en étant conscient qu'effectivement, dans la dimension matérielle où on se trouve, c'est un jeu. Et là, on va toucher aussi à des choses très importantes et qui touchent aussi aux émotions, c'est comment est-ce qu'on peut jouer des rôles qui vont nous distribuer certains aspects de nous-mêmes, rencontrer certains personnages en nous, parce qu'on est nombreux, on n'est pas les mêmes à tous les endroits et dans tous les domaines de notre vie. Il y a des endroits où on est très mature, il y a des endroits où on est très immature. Il y a des endroits où on a vraiment besoin d'aide et on est blessé. Et c'est intéressant de rencontrer comme ça toutes les parts de nous. Et le jeu, les jeux de rôle, vont nous permettre de rencontrer toutes ces parts de nous et peut-être de nous désidentifier de ces rôles pour pouvoir les vivre pleinement dans l'instant, dans le jeu. Dans le jeu, ces rôles existent, mais dans la réalité, ce n'est pas moi. Moi, je suis beaucoup plus que ça. Je suis l'ensemble de tous ces jeux, en fait. Et il y a vraiment quelque chose, là on tient vraiment quelque chose de quantique dans le sens où on a une sacrée puissance de création et de réalisation, d'accomplissement pour notre être.
Merci beaucoup d'aborder ce sujet du théâtre sacré intérieur, qui me tient beaucoup à cœur, ce sujet-là que je transmets également en écologie intérieure. Nous sommes tellement vastes et tellement multiples et nombreux à l'intérieur et nombreuses. Si on pense ne serait-ce que depuis notre enfance, imaginez un petit peu tous les stades qu'il y a à l'intérieur de vous. Il y a toujours la petite fille, le petit garçon, il y a toujours l'adolescent, l'adolescente, le feu, la ferveur de vouloir changer le monde. Et puis il y a aussi l'homme mature, la femme mature, et puis il y a parfois aussi la grand-mère, l'homme sage, l'ancien, l'ancienne, et encore les mémoires collectives.
Exactement, pourquoi pas imaginer aussi qu'on va rencontrer notre guide intérieur, notre maître, tout ça est de l'imaginaire. Et dans l'imaginaire, il y a une rencontre avec des énergies en nous qui peuvent être activées.
Est-ce que tu veux nous parler un petit peu plus justement de ces énergies ? J'ai beaucoup aimé, tout à l'heure tu m'as dit en off, l'imagination c'est la nation de la magie, oui. et que nous sommes des magiciens créateurs. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de cette magie que tu rencontres dans le rêve lumière justement ?
Oui, alors par exemple dans le rêve lumière, les gens vont aller dans un voyage intérieur, imaginaire, qu'ils vont créer entièrement de toutes pièces. Ils vont créer le décor, les personnages, ils vont se rencontrer à eux-mêmes à travers différentes parts. Et une alchimie va s'opérer naturellement. C'est pas du tout moi qui l'amène, c'est eux qui l'ont en eux. Le voyage s'opère à travers soit la rencontre d'une part blessée ou alors la rencontre avec une part très évoluée en eux, qui va leur montrer, leur enseigner quelque chose. Donc cette magie-là, elle opère à différents endroits. Elle opère déjà dans l'alchimie du rêve, où il y a quand même une évolution et une guérison qui s'opère systématiquement. Rien n'émerge qui ne soit prêt à être guéri. Donc quelque chose en nous sait exactement par où ça passe. Et ensuite, une autre part de la magie, c'est que ça va tout de suite transformer notre réalité. Ce que j'ai guéri en moi, ça va m'apparaître guéri dans ma réalité. C'est-à-dire que tout de suite, je vais avoir une autre relation à ce que j'ai guéri. Et bien souvent, il va y avoir, les gens vont me renvoyer une autre image de moi. Si j'étais coincée dans une certaine image que les gens me renvoyaient, si je guéris ça en moi, tout de suite, les gens changent dans, dans la relation. Et ça, c'est... On est vraiment des magiciens. Par le jeu, on est des magiciens. Et par le rêve.
C'est très énergétique, tout ça. Ouais, c'est vraiment dans l'invisible que ça se passe. Et
c'est très émotionnel aussi. Mm-hmm. C'est-à-dire que bien souvent, au cours du rêve, il y a des zones émotionnelles qui ont besoin d'être guéries, qui émergent. Une émotion arrive. Et là, c'est vrai que c'est intéressant aussi de travailler sur l'émotion. On peut avoir deux façons de ne pas la libérer ou qu'elle ne puisse pas se libérer. Pour moi, il y a soit je vais éviter de les vivre, je vais trouver des parades, je vais m'en couper, donc... Soit je vais me raconter des histoires dessus et je vais au contraire les alimenter.
La défouler.
Voilà. Mmh. Et je vais rentrer dans le rôle et me prendre au sérieux du rôle. Ça y est, je suis ça, c'est ma faute, c'est à cause de ça. Et là, à un moment donné, comment est-ce que je peux simplement vivre peut-être la sensation, l'émotion, en étant vigilant de ne basculer ni d'un côté ni de l'autre. Il y a un juste milieu à ça. Mmh. Et Dieu sait que depuis qu'on est né, on a enfermé beaucoup de couches émotionnelles en nous. Et j'ai presque envie de vous dire qu'il faudra toutes les ressortir. Donc, à un moment donné, savoir comment gérer l'émotion, c'est vraiment...
C'est crucial aujourd'hui.
Ouais, c'est important.
C'est vraiment crucial, c'est ce qu'on a vu hier. On ne créera pas un nouveau monde apaisé, harmonieux, joyeux, tant qu'on n'ira pas guérir toutes ces parts de nous qui sont en souffrance. Parce que, comme tu le dis si bien, notre création... n'est que le reflet de nous-mêmes. Notre création nous parle de nous. Et figurez-vous que ça marche à un niveau individuel, mais ça marche aussi à un niveau collectif. C'est-à-dire que notre monde est exactement notre rêve collectif. Voilà, voilà. Donc si on veut créer un monde meilleur, il va falloir qu'on réapprenne à rêver et il va falloir qu'on guérisse toutes les blessures et tous les traumatismes qui émergent dans nos rêves.
Que d'une certaine façon, l'imagination que je mets au service de mes peurs, de mes conflits, elle va créer quelque part une réalité sombre, répétitive et douloureuse. Et l'imagination que je vais mettre au service de ce qui me tient à cœur, de mes aspirations, de mes rêves, de ce qui me porte plus haut, va donner des créations lumineuses, de beauté. On pourrait être juste là, tous ensemble, à embellir le monde. Et décider qu'on place notre énergie à cet endroit-là, même si en même temps on guérit nos parts blessées. Il y a une décision à prendre, quelque part, de s'emparer de sa vie.
Et c'est d'ailleurs depuis cette bienveillance pour soi, et ce grand amour, et cette grande confiance que l'on va pouvoir accueillir nos ténèbres.
Je suis tout à fait d'accord et je partage ce que tu viens de dire. On a un choix collectif. Soit on reste dans une sorte de transe hypnotique collective qui nous fait voir le réel d'une certaine manière. Soit on décide d'en sortir et on décide de créer autre chose. Mais ça veut dire que c'est à la fois un cheminement individuel, mais qui va s'articuler par des groupes, par des organisations de petits groupes ou de grands groupes pour sortir de, cette, de la transe dans laquelle on est, où la plupart d'entre nous se mentent sur la réalité et préfèrent, tu l'as dit, fuir leurs émotions, leurs souffrances. Et c'est ce que tu disais me faisait penser à un livre qui s'appelle Le printemps des magiciens de Powells, et j'ai oublié l'autre auteur.
Le matin des magiciens de Louise Powells, et je ne sais plus.
Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est plus le matin, c'est le temps des magiciens. C'est maintenant que ça se passe. Et qu'on a des connaissances suffisantes, nous, là, ici, dans nos pays, pour pouvoir se mettre en chemin. Et effectivement, le message est aussi complexe parce que ça veut dire qu'il faut s'en occuper de nos blocages. Et ça, c'est pas, a priori, très réjouissant. C'est pas si difficile que ça. C'est juste un nouveau rapport à soi. Et comme tu l'as très bien dit, on a plein de sous-parties de nous. Ben, acceptons qu'on a plein de sous-parties, il y en a des blessés, on s'en occupe, on prend soin de nous. Je sais pas, moi j'en ai une qui est addict à manger des trucs pas bons pour mon corps. Et ben, c'est pas en la brimant que je vais la guérir, c'est en prenant conscience, en trouvant le chemin qui va lui permettre d'être guéri. Je peux la renier, l'effacer, mais elle reste.
Lui faire la guerre, ça ne va pas arranger les choses.
Mais si je
prends
le temps de l'accueillir réellement, de voir ce qu'elle a à me raconter, elle va énormément m'informer sur mes propres souffrances. Et progressivement, mais sans m'en rendre compte, le problème d'addiction, je ne sais pas moi, à la pizza ou je ne sais pas quoi.
À la clope, et etc.
Oui, j'ai pas celle-là, mais voilà. Va se dénouer progressivement. Hein, voilà.
Et dans la rencontre.
Ou même parfois ça peut être très rapide parce qu'on ne sait pas combien il y a d'engrammes derrière. Des fois il y a un ou deux blocages. Une fois que c'est levé, eh bien le comportement, tu l'as très bien précisé, c'est ce à quoi on assiste dans nos accompagnements avec des approches qui sont similaires mais qui ne sont pas qui fonctionnent, enfin qui sont similaires mais on n'a pas les mêmes mots, les mêmes façons, mais finalement on assiste à des mutations. Voilà, on voit des mutes parfois, des bascules assez surprenantes chez certaines personnes. Parfois, il y a un long cheminement, comme une exponentielle. Vous voyez l'exponentielle, la courbe. Il y a tout un ensemble de choses qui se font, comme si la personne avait besoin d'explorer. Et puis, à un moment donné, tchac, le changement s'effectue. Mais d'un coup. Il n'y a pas forcément un modèle pour chacun, mais il y a une volonté, et ça je te le rejoins, il y a une décision à prendre. Qu'est-ce que je veux ? Est-ce que je veux rester dans la transe collective, me mentir à moi-même, ou est-ce que j'ai l'honnêteté de me regarder avec mes blocages ?
Est-ce que je reste une victime de ce qui m'arrive, ou bien est-ce que je prends ma responsabilité ? Non, pas... Responsabilité, ce n'est pas culpabilité, je suis coupable de rien, mais responsable pour mon évolution, et puis pour mon bonheur, pour être heureux. Comment est-ce que je prends mon bonheur en main ? Parce qu'il n'y a rien de plus... beau que d'accomplir son propre bonheur.
En écologie intérieure, on parle de mission de vie. Toi, je sais que tu n'aimes pas trop ce terme parce qu'il peut, mettre un peu la pression. Ouais. Mais en l'occurrence, il s'agit quand même de ça. C'est-à-dire que, oui, on est venu là pour prendre notre bonheur en main. C'est ça notre mission, rien de plus.
Alors, je suis d'accord avec vous, mais j'ai un désaccord sur le risque. Pareil, le bonheur, évidemment. Qu'est-ce qu'on est venu faire sur Terre ? On est, a priori, pas venu pour souffrir. Sauf qu'il y a un danger aujourd'hui que je vois dans le bonheur à tout prix. C'est-à-dire qu'à force de vouloir être heureux, on en est prêt à ne pas aller voir les souffrances qui nous habitent et pas se mettre en mouvement. C'est le risque d'une sorte de bonheur obligatoire, d'une positivité à tout prix. Et on va confondre le résultat, c'est-à-dire qu'on se sent à sa place dans ce qu'on vit. C'est ça que j'appelle, moi, la mission de vie. On fait ce qu'on aime et on s'y sent comme un enfant qui joue. Tu l'as très bien décrit. Un enfant joue, il est à sa place. Un enfant, on dit qu'il joue. Mais si vous faites, je sais pas, une activité, vous êtes spécialiste des vers de terre. Un spécialiste des vers de terre, il passe sa journée à observer des vers de terre. Et un enfant qui observe des vers de terre dans un jardin, on va dire qu'il joue. Le spécialiste, c'est son travail. Vous voyez, là, il n'y a pas une grande nuance, c'est la même chose. Eh bien, moi, je pense qu'on est venu faire ça, jouer, faire ce qui nous passionne le plus. C'est ça que j'appelle mission de vie. Mais effectivement, ça peut être connoté comme un truc super anxiogène, il faut absolument que je le fasse, c'est l'horreur si je ne le fais pas. Alors qu'en réalité, c'est ce qui nous anime le plus et qui nous éloigne de l'idée d'une quête d'un bonheur qui nous serait tout le temps, qui nous échapperait. Le bonheur est le résultat d'un état intérieur. Voilà, il est le résultat d'une transformation intérieure. Et plus, j'ai envie de dire que parfois, je vois des gens qui le cherchent, et plus ils le cherchent, moins ils le trouvent. Ils s'illusionnent. En fait, plus on s'intériorise et plus on cherche à comprendre ce qui se passe en nous, plus le résultat nous donne un sentiment de puissance, de joie et des actes en correspondance qui ne sont pas forcément une sorte de défoulement comme, je ne sais pas, ce que je pourrais prendre, ce que j'aime pas, regarder du foot par exemple ou voilà, des trucs comme ça.
Juste non seulement comprendre ce qui se passe en nous, mais surtout suivre cet élan de vie qui nous dit là c'est joyeux de faire ça, allez vas-y fais-le.
De la joie, ouais.
Voilà. Suivons le chemin de cette joie profonde. de cette pétillance
qui n'exclut pas les difficultés. On peut vraiment vivre des moments en surface difficiles en étant dans une profonde joie, parce qu'on est sur son chemin d'accomplissement. Et ça, c'est très important.
Toutes les personnes, ouais, effectivement, qui ont traversé des grandes épreuves savent ce secret-là, c'est-à-dire à quel point ils ont grandi au cœur de cette vague qui pouvait en surface paraître effrayante et pourtant en profondeur qui était tellement nourrissante aussi. Ouais, et ça, effectivement, c'est ça, cette voie de la mission de vie ou de la joie ou du jeu d'être en vie.
Je rejoins vraiment dans le fond. Hein. Pour moi, je parlerai plus, parce que ça me ressemble plus, d'accomplir notre véritable nature, qui est finalement accomplir notre mission de vie. C'est la même chose.
Merci. Et alors, du coup, on est tous d'accord et on est d'accord aussi donc sur le fait qu'on a une grande responsabilité à réapprendre à jouer, finalement. C'est sérieux, les gars, c'est une grosse mission, là. Vous l'acceptez ou pas? C'est-à-dire que nous avons une responsabilité en tant que rêveurs de notre propre vie et en tant que rêveurs du collectif, parce que nous sommes tous une part du collectif. Et si on réapprend, nous, déjà, à assumer cette voie de se sentir à notre place et d'oser avoir parfois les actions courageuses qui nous mettent à notre place, là où c'est juste pour nous d'être, alors le monde va pouvoir enfin se guérir et enfin ressembler à quelque chose d'harmonieux et de joyeux si chacun prend cette responsabilité pour lui-même et pour les autres.
Oui, c'est vraiment faire la part du colibri. Hein. Au niveau de mon imaginaire, du rêve que j'apporte à la planète et qui se cumule à tous les autres, quelle est ma part? Qu'est-ce que j'amène?
Et alors justement, merci de faire le lien avec les colibris. Dans ce mouvement de transition, où il y a énormément de mouvements, les colibris et d'autres, des porteurs d'alternatives, etc., quels seraient aujourd'hui vos peut-être conseils ou vos regards sur ce nouveau monde en création, en émergence? Comment pourrait-il se saisir encore plus de cette puissance de l'imaginaire pour faire advenir ce nouveau monde plus rapidement?
Pour moi, on doit changer de paradigme. On doit changer de matrice. On vit dans une matrice de la peur et dans une matrice de la séparation. Et on doit basculer dans une matrice d'amour, de confiance, une matrice du vivant. Être au service du vivant. Et au service du vivant, c'est à mon propre service déjà. Au service de ma globalité. Et on va devoir répondre, on va devoir guérir tous les aspects du vivant qui sont abîmés. Que ce soit dans ce monde, la façon de se nourrir, la nature, la pollution. Qu'est-ce qu'on va interroger? L'amour, la sexualité, la relation aux autres.
Aux enfants,
l'éducation. Tous les aspects de notre monde ont besoin d'être réévalués, revisités avec beaucoup de lumière. Et réimaginés, réinventés, parce qu'on porte tout ça en nous.
Merci. Et toi, Jean-Guillaume, qu'en dirais-tu?
Je souscris à ce que tu viens de dire, bien évidemment. Du coup, je ne vais pas le répéter, parce que je partage le même point de vue. Moi, ce qui me paraît intéressant, c'est que collectivement et individuellement, on se donne des temps de projection dans le futur. C'est-à-dire que j'entends souvent les collapsologues qui nous expliquent que notre cerveau est bloqué, qu'on ne peut rien faire. Et je pense qu'on peut aller plus loin. C'est-à-dire qu'on croit qu'on a un cerveau qui n'est pas capable d'anticiper le futur. Des gens qui disent ça ignorent les travaux de la parapsychologie. Vous le savez, on est capable parfois d'avoir des visions du futur spontanées, ou parfois des médiums vous donnent des informations qui ensuite se produisent. C'est-à-dire que la vision matérielle devrait être remplacée par une vision qui pourrait être dite quantique, une autre vision, une autre façon de percevoir les choses. Et du coup, si collectivement, on se projette, enfin collectivement, individuellement, on fait des rêves où on s'imagine dans un futur positif, au sens noble du terme, un futur qui nous permet de vivre tout ce que tu as décrit avant, un univers réellement aimant pour chacun, où on puisse se sentir à sa place sur Terre, eh bien on va débloquer la possibilité de le créer. Sauf que, pour l'instant, ceux qui le font, ce sont souvent les artistes. Alors, à la fois, pour nous alerter sur les dangers, ils nous projettent dans un univers d'horreur pour nous dire, attention, réagissez, ça va être dangereux, ça sert à ça aussi. Mais on peut aussi imaginer des projections dans des univers beaucoup plus positifs et voir le chemin qu'on a à faire pour y aller. Hein, par exemple, si on se projette sur, imaginons, scénario noir, les catastrophes nucléaires, toutes les centrales nucléaires qui pourraient exploser. Vous voyez, c'est un scénario horrible. Puis, au contraire, on peut se projeter Imaginons que les centrales nucléaires s'arrêtent. On décide de les arrêter, on trouve autre chose. On trouve une autre solution. Et on s'enlève ce danger et ce problème de gestion, etc. Comment on fait ? Eh bien là, l'imaginaire va être une ressource incroyable. Et ce sont souvent les artistes qui, eux, ont l'habitude, n'ont pas perdu leur jeu, leur capacité à imaginer, qui sont bien entraînés. Et je pense qu'on peut leur demander de l'aide et nous s'entraîner individuellement aussi à faire ça. Parce que sinon, on s'atrophie quelque part et on s'empêche. On ne peut pas créer la suite si on n'imagine pas. Je donne souvent l'exemple. Vous avez un rhume. Vous vous dites pas, je vais mourir. Vous avez un rhume, vous savez que ça dure 7 jours à peu près pour guérir. Vous êtes déjà en train d'imaginer que vous allez guérir. Vous ne vous posez pas la question que vous allez mourir avec votre rhume. C'est un rhume, vous avez le nez qui coule et vous savez que ça va passer. Donc votre intention, c'est bien de guérir. Vous savez que vous allez guérir, vous n'avez aucun doute. Eh bien aujourd'hui, pour moi, l'être humain, il est malade de plein de... Il souffre de plein de fonctionnements qui sont inappropriés à l'époque à laquelle on est aujourd'hui. Et s'il se projette dans sa guérison, dans la suite... Eh bien, c'est gagné. Faut-il encore qu'on soit nombreux à le conscientiser et à le proposer à ceux qui n'ont pas encore fait le pas. Donc au début, ce sont peut-être des individus seuls, puis progressivement des petits groupes qui s'autonomisent, qui comprennent, qui explorent, et puis des groupes de plus en plus grands, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y a une masse critique qui bascule, et puis que l'ensemble fasse ce saut qui peut aller très vite. On observe historiquement, parfois il y a des bascules et des arrêts de pratiques, des transformations. Je sais pas, on peut prendre l'Église en l'espace de 50 ans a perdu l'essentiel de l'Église chrétienne, a perdu l'essentiel de ses fidèles. Alors pendant 2000 ans, elle a instauré, j'ai envie de dire une chape, oui, disons-le, oui. Une chape, un contrôle sur les consciences, sur la façon dont il fallait vivre, elle organisait la vie des gens, et puis en l'espace de 200 ans à peine, les églises se sont vidées. Alors on est triste quand il y a une église qui brûle, mais les gens qui vont à l'église sont beaucoup moins nombreux. C'est-à-dire que parfois des bascules se produisent très rapidement parce que le paradigme justement a été dépassé.
Exactement. Donc là effectivement il y a tout un paradigme à réinventer, un nouveau monde à créer et du coup ça demande de se projeter dans un nouvel imaginaire. Quelque part là il est urgent qu'on ait une nouvelle science-fiction, une science-fiction positive, une science-fiction souhaitable, désirable, merveilleuse, harmonieuse, parce que c'est ça aussi qui va nous aider à la créer, à la faire advenir.
Voilà, je peux donner un exemple par exemple d'un écrivain qui s'appelle Bertrand Meost, qui est un spécialiste de la parapsychologie. Il vient d'écrire un roman justement, une dystopie positive, c'est-à-dire qu'un futur enthousiasmant. C'est Bill Gates qui décide d'utiliser toute sa fortune pour mettre fin au capitalisme et qui investit tout en France en rachetant Notre-Dame-des-Landes, en le donnant aux gens qui sont à Notre-Dame-des-Landes. Il rachète la Beauce, hein, vous savez, cette grande région où on cultive que du blé et des choses comme ça. Il appelle ça la Beauce libérée. Il finance la permaculture, etc. Donc il nous ouvre à un imaginaire où les grands riches ne sont plus des êtres machiavéliques, mais des gens qui prennent conscience et qui utilisent leur puissance, leur capacité, parce que ils ont des capacités insoupçonnées d'organisation pour faire la bascule. Et je vous invite vraiment à lire le livre. Hein. Ça s'appelle Guillaume Portail. Il a fait un jeu de mots. Bill Gates, Guillaume Portail. Et il y a tout un... C'est vraiment passionnant parce qu'il transforme les noms des hommes politiques. Et il a aussi travaillé... Je vous invite à lire un de ses romans. C'est sur le Titanic. C'est l'histoire paranormale du Titanic. Où il montre que des écrivains avaient écrit l'histoire du Titanic, l'un 40 ans avant, et quasiment avec le même mot, c'était le bateau s'appelait le Titan, le capitaine avait le même comportement que sur le vrai Titanic, et l'autre roman a été publié le jour quasiment du naufrage. Il faut prendre conscience que l'imaginaire, c'est plus que l'imaginaire. C'est vraiment notre connexion à des mondes subtils que notre culture matérialiste a tendance à dénier, alors qu'en réalité, on a accès à des choses absolument incroyables. Alors autant s'y brancher. Quoi.
Autant s'y brancher et donc reprendre conscience de cette responsabilité qu'on a en tant que rêveur et en tant qu'imaginateur, imaginatrice.
Oui, on a un vrai axe sur le futur. Ça, c'est vrai que c'est un axe qui est en train de s'ouvrir aujourd'hui, je pense, notamment dans le développement personnel, on voit beaucoup de gens qui commencent à ouvrir. On ne travaille pas forcément sur les mémoires du passé, on va travailler sur les intentions, les aspirations qui sont les lignes du futur qui vont pouvoir à un moment donné nous donner leur savoir ici et maintenant et du coup changer notre futur. Il y a vraiment aujourd'hui des gens qui se penchent sur ce sujet. Moi-même en animation, ça peut m'arriver, je fais faire parfois une ligne du temps aux gens avec deux points, leur naissance, leur instant présent, et les gens vont aller dans le futur pour quêter une guérison dont ils ont besoin aujourd'hui. Donc quelque part, toutes les guérisons dont on a besoin, on les a en nous et elles sont dans le potentiel de nos futurs qu'on peut mettre en scène et aller rencontrer.
Il s'agit d'une question de foi, n'est-ce pas?
Tout à fait.
Là, vraiment.
Mon poème.
Non, même pas.
Ah ouais, bah
mais je serais ravie de le lire. Mais oui, bien sûr, là, c'est, on disait le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Bah, en l'occurrence, si on veut croire en des futurs meilleurs, effectivement, la foi s'invite forcément.
L'imaginaire, c'est du sérieux, puisqu'il est à l'œuvre derrière toutes nos créations de réalité, qu'elles soient individuelles ou collectives. On en parle avec Jean-Guillaume Bellier, formateur en écologie intérieure, et Virginie Boissière, formatrice en rêve-lumière.
Je voudrais bien, Virginie, que tu nous parles un petit peu plus de la dimension collective justement du rêve-lumière, parce que ce futur, on va le créer à nous tous, on est nombreux, et c'est intéressant de voir justement comment on peut non seulement rêver chacun pour soi, mais comment on peut rêver ensemble.
C'est-à-dire que le rêve-lumière, moi, c'est un outil que j'ai reçu en rêve. Donc après, je me suis mise à l'appliquer, et ça fonctionne bien. Ce que j'ai reçu, c'est vraiment que c'était un outil pour le collectif, et qu'il fallait l'utiliser par exemple pour des groupes qui veulent monter un projet ensemble. Ils pouvaient se mettre à rêver ensemble les éléments essentiels du projet, poser des intentions pour partir dans le rêve et quêter de l'information pour leur projet et pour l'équilibre de leur projet, c'est-à-dire s'il y a des conflits, tout ça, comment est-ce qu'on peut déverrouiller à partir de ces dimensions plus hautes de nous-mêmes et du groupe. C'est-à-dire qu'il y a l'âme individuelle, mais il y a aussi l'âme du groupe. Donc le rêve lumière, c'est une façon de se mettre tous dans cette transe du rêve ensemble, et puis chaque personne dans le rêve va amener sa participation, sa pièce au puzzle.
Alors concrètement, là c'est vrai qu'on peut avoir du mal à imaginer, mais moi j'ai eu la chance de pouvoir le pratiquer et y participer avec toi. Donc on l'a fait notamment une fois sous forme de mandala, c'est-à-dire qu'on s'est tous allongés en étoile, les têtes au centre, et bien sûr voilà, on s'est tous intériorisés, et puis à mesure il y avait une personne qui parlait, qui commençait à donner quelques indications de ses visions, de ce qu'elle voyait, puis hop, quelqu'un d'autre voit autre chose et amène autre chose, et on le dit à haute voix, et comme ça le rêve se co-créer.
Ouais, c'est une co-création en fait. Et je pense que co-créer, c'est quelque chose qu'on a vraiment besoin d'apprendre. C'est presque une zone de recherche. On peut co-créer ensemble à différents niveaux. il faut passer à l'action pour découvrir ce champ-là.
Et encore une fois, pour pouvoir se mettre ensemble et co-créer ensemble, ça va être aussi indispensable de guérir tout ce qui fait qu'on a du mal à être ensemble.
Tout ce qui va sortir de compliqué dans les groupes, ouais.
Voilà. Donc, je vous remercie vraiment beaucoup, mes chers invités, Jean-Guillaume pour l'écologie intérieure et Virginie Boissière pour le rêve lumière, pour cet entretien croisé dont j'avais une belle intuition avec vous deux sur ce sujet. Peut-être juste vous laisser le temps de spécifier si les gens veulent en savoir un petit peu plus, comment vous retrouver sur internet ou ailleurs.
Alors oui, donc moi j'ai un site qui s'appelle www.latelierdebélier.com, mais j'ai deux L à mon nom. Voilà, ça me permet de voler justement, de me brancher sur d'autres niveaux de conscience. Et je propose régulièrement des stages un peu dans toute la France. Souvent, je suis invité. Donc, les prochains seront donc demain, avec Céline Elodie pendant 3 jours. Ensuite, j'en ai dans la Drôme, dans le Désordre, en Alsace et sur la région de Perpignan.
Donc des stages d'écologie intérieure.
Des stages d'écologie intérieure où justement on peut expérimenter de se rebrancher sur la transformation des émotions, se brancher sur son intuition ou sur son guide intérieur, travailler sur les blocages à la communication pour la rendre à nouveau plus fluide, en voyant que souvent on est des bons communicants mais on a des tas de casseroles qui nous empêchent de voir les autres tels qu'ils sont. Donc guérir très rapidement des blocages pour retrouver une communication fluide. Il y a aussi tout l'équilibre masculin-féminin qui est proposé, parce que souvent on a des engrammes, des images du masculin et du féminin qui sont très négatives, donc ça se répare aussi. Et puis une partie qui est qu'est-ce qu'on est venu faire sur Terre, qu'est-ce qui nous anime et comment est-ce qu'on peut le créer. Donc bref, on travaille sur la spiritualité naturelle, c'est l'idée de respecter tous les processus naturels en nous, que ce soit le corps, la sexualité, les émotions, les pensées, on va dire rationnelles, la réflexion et l'intuition. Et je propose justement des approches qui vont permettre de goûter à des états d'éveil, de sentir ce que c'est, pour pouvoir les intégrer progressivement.
Voilà. Eh bien, dis donc, quel programme l'écologie intérieure.
Et toi, c'est très complet. Hein,
oui, c'est très complet. C'est moi, c'est ce que j'adore dans l'écologie intérieure. C'est pour ça que je la transmets aussi et que je l'enseigne aussi. Alors, de ton côté, Virginie, comment on fait pour en savoir plus, pour te rejoindre et peut-être avoir la chance de pratiquer le rêve lumière?
Alors, vous pouvez aller sur mon site internet www.sophrologie-gare.net.
Et tu as une page Facebook qui est assez active.
Oui, très active, avec pas mal d'ateliers, de petites rencontres, de causeries, d'ateliers gratuits ou en participation libre, pour aussi offrir la possibilité de venir découvrir et que ce soit accessible à tous. Ça, je crois que pour moi, pour changer de paradigme, ce côté partage et accessible est très important. Il fait vraiment partie de ma transmission.
Ta page Facebook, tu peux nous rappeler? On te trouve Virginie Boissière, tout simplement.
Ouais.
D'accord.
Et après, il y aura une formation Rêve Lumière à la rentrée prochaine, donc dernier week-end de septembre. Donc ça, c'est sur mon site. Et là, c'est une très belle aventure collective, justement. Voilà.
Merci beaucoup à vous. Et puis, pour en savoir plus sur tout ce monde en transition et tous ces outils, vous pouvez toujours retourner sur auserviceduvivant.info, écouter toutes les émissions de radio que j'ai faites au fil du temps.
Merci.
Merci
beaucoup.
En touche les colibris, les animaux, tous leurs amis se sont rués comme un sali. Ça y est, l'histoire s'arrête ici, sans dire la fin de l'incendie. L'important c'est les colibris et leur courage et leur génie. Au paradis des colibris, il y aura des ogres et des gentils, des grands, des gros, des minces, des petits. Au paradis des colibris, au paradis.
Pour rejoindre les Jeudis des Colibris, c'est le 3e jeudi du mois, à la boutique solidaire au 5 Faubourg de Rochebelle à Alès. Et pour réécouter cette émission, c'est quand vous voulez sur le www.radio16.net.